Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition où l'on discute sur comment optimiser sa nutrition pour le crossfit afin de performer sur le long terme, que ce soit à la boxe ou en dehors. L'objectif est d'aider un maximum d'athlètes avec une nutrition sans restriction et frustration. Partage et savoure! Bienvenue dans cet épisode un peu spécial aujourd'hui où je suis accompagnée par mes partenaires du projet Performance. Avec Kaina, préparatrice mentale, et Carmen, qui est kiné, nous allons attaquer deux sujets passionnants. Le premier sur les étirements. Quand est-ce qu'il faut les faire? Est-ce que c'est important? Pourquoi? Avant? Après? Et le second sur la prise en charge des athlètes ayant des troubles du comportement alimentaire. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ce podcast que nous en avons eu à le faire. Bonne écoute!
Ok, bon du coup Carmen, ma petite question c'était, on entend souvent plein de choses au niveau des étirements dans le milieu du sport, avant, après, combien de temps après, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On va voir avec toi du coup ce qu'il est possible de faire et ce qui est réel en fait au final.
Ouais, bah c'est une super question, il y a beaucoup de gens qui se la posent. Et c'est un sujet ultra d'actualité parce qu'en ce moment, il y a plein de recherches qui se font. Et au début, il n'y avait pas beaucoup d'articles scientifiques. Là, on en voit apparaître un petit peu de plus en plus. C'est assez spécifique à chaque sport dans les recherches scientifiques. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus non plus total. En fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a déjà le fait de les faire avant ou après. Ça a été longtemps une question. En fait, qu'est-ce que le avant, qu'est-ce que le après? Parce qu'il y en a qui s'étirent juste avant, genre je fais mon petit footing, je m'étire. Il y en a qui s'étirent juste après, en mode je viens de faire 45 minutes, il faut que je m'étire. Et on se rend compte qu'en fait, il y a pas vraiment plus de bénéfices que ce soit avant ou après. Même si le après, c'est juste après, 2 heures après, 5 heures après. Le fait de le faire juste avant, en fait, les études ont prouvé qu'il y avait non plus pas de bénéfice, mais par contre, faut bien mettre aussi les choses en avant. Il n'y a aucune possibilité de blessure parce que tu le fais avant. Il n'y a pas de bénéfice particulier, mais il n'y a pas de risque non plus. Après, ce qui est aussi important de comprendre, c'est pourquoi on s'étire. En fait, à la base, il y a eu beaucoup de trucs. C'est on s'étire pour éviter les courbatures. Les dernières études qui sont sorties prouvent qu'en fait, il n'y a aucun lien de corrélation entre le fait de s'étirer après un effort et le fait d'avoir des courbatures. En fait, les courbatures, on sait que c'est des petites micro-lésions dans les fibres musculaires. Et en fait, quand tu t'étires, bah, ça ne va pas changer le fait que tu aies des micro-lésions, si tu
Okay.
réfléchis un peu au process.
De fait, j'ai une question. Est-ce que ça augmente ces micro-lésions? Parce que tu vas venir étirer par exemple un muscle. On part sur des exemples concrets. Donc tu pars sur un squat, d'accord? Donc tu vas venir avoir ton muscle, ton quadriceps qui va être gonflé, d'accord? Tu fais une grosse séance de squat. Est-ce que par exemple, quand tu vas venir faire un étirement au niveau des quadriceps après l'effort, est-ce que tu vas créer plus de déchirures musculaires pour le coup ou pas?
Eh ben, les études ne le montrent pas. En fait, il y a aussi la question de comment tu t'étires. En gros, ce n'est pas forcément parce que tu t'étires que tu vas te créer plus de lésions. Ce n'est pas exactement les mêmes processus qui rentrent en jeu dans ton muscle propre. Pour le coup, ce qui est important aussi, c'est de savoir bien s'étirer. Il y a des gens, vous avez sûrement dû tous les voir ou en salle ou en run ou quoi. Ils s'étirent, ils essayent de taper le grand écart, quoi. Non, en fait, il faut s'étirer. Faut sentir la sensation d'étirement. Faut pas forcément sentir la douleur. Une fois qu'on sent la douleur, c'est déjà un peu tard en fait. Mais c'est un peu comme pour tout, c'est un apprentissage. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que tu me parles du squat. Bah, les gens vont faire du squat, ils vont forcément chercher à s'étirer les quadris. Mais en fait, quand tu fais du squat, il y a d'autres muscles qui sont sollicités aussi. Donc c'est important de s'étirer le muscle que certes t'as sollicité parce qu'après tu en ressens le besoin. Mais c'est important de aussi étirer les autres muscles pour un bien-être général aussi, et puis parce que tu as d'autres muscles qui sont utilisés en squat. Ce qui ressort aussi, ce qui est super important, c'est que c'est mieux de faire, bah, tu vois, ça va rejoindre aussi un peu avec l'aspect, tout ce qui est nutrition, c'est que c'est mieux de faire un peu d'étirement, 5 à 10 minutes, 3 fois par semaine, que tu te claques le dimanche et tu fais une demi-heure d'étirement. Le fait d'être rigoureux et de faire plusieurs fois les mêmes choses, ça va avoir beaucoup plus d'effets positifs que se faire une grosse séance d'étirement, genre une fois par mois, quoi.
Okay. Je me permets, j'ai plein de questions sur les étirements parce que je suis raide comme un bout de bois. De fait, ça me parle. Donc là, on a parlé du fait est qu'il n'y a pas de, il y a pas de, c'est pas scientifiquement prouvé comme quoi ça réduit les blessures. C'est pas scientifiquement prouvé qu'il faut absolument les faire. Mais quels sont les bénéfices de venir s'étirer pour le coup?
Et ben en fait, le principal intérêt, c'est d'avoir une amplitude de mouvement plus grande. Donc, c'est pas. En fait, quand on étire, on est d'accord qu'on étire les muscles, on ne va pas étirer les articulations. Ça, c'est des structures qui sont rigides. En fait, tu vas étirer ton muscle. Et du coup, c'est super intéressant aussi ta question parce que pour les gens qui s'étirent avant, type je vais m'étirer parce que je vais faire un petit run ou je vais m'étirer pour faire une activité physique, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est des étirements dynamiques à comparer aux étirements statiques, type ce qu'on fait en CrossFit, la mobilité. Tu commences à solliciter ton muscle tranquillement sur des mouvements d'amplitude, tu recommences à ressentir. Ça a aussi un effet d'apport de circulation sanguine dans tout ton corps et dans ton muscle spécifiquement. Et ça, c'est des choses qui seraient plus intéressantes si tu as envie de t'étirer avant. Donc ça aussi, on revient sur le fait de savoir bien s'étirer parce que on les a tous vus, les positions type grand écart et je force à fond. Bah en fait, tu n'étires rien du tout quand tu es à froid. Oui, toi, tu n'arriveras pas à le faire, je pense. Mais quand tu es à froid et que tu essayes de le faire, en fait, tu vas surtout étirer ta capsule articulaire. Et bah ça sert à rien. Ta capsule, elle s'en fout un peu. Et par contre, si tu vas faire un sport qui est assez explosif, type un sprint, oui, il vaut mieux quand même s'étirer parce que là, du coup, tu vas aller chercher des amplitudes articulaires et de mobilisation qui sont maximales. Donc, il vaut mieux que ton muscle soit capable de faire ce max d'amplitude.
Est-ce que ça suffit de faire, par exemple, le mouvement à vide en se concentrant sur l'amplitude et sur la qualité? Par exemple, on reprend l'exemple du squat. Tu veux faire un squat, est-ce que ça a du sens de faire plusieurs fois le mouvement à vide en cherchant une bonne amplitude, un bon mouvement? Est-ce que ça peut être considéré comme un étirement actif en vue de la préparation du mouvement lui-même?
Ouais, et c'est même, ça a un intérêt, donc tu as le côté circulatoire, mais c'est un intérêt de proprioception aussi. Tu ressens ton corps, tu ressens quand tu es en squat, tu as quand même un transfert de charge et de poids de ton centre de gravité, et c'est important pour tout ce qui est proprioception. Donc là, on sort du côté un peu étirement, mais en fait, c'est important pour ton corps, pour se préparer au mouvement qu'il va faire, surtout si après tu montes en charge. Donc ça, c'est super important. Après, là, tout ce que je dis. En fait, ce qui est, c'est les études qui ont réussi à combiner ces dernières années. Il y en a de plus en plus qui se créent. Peut-être que ce que je veux dire, ça va choquer quelqu'un, mais en fait, tout le monde est propre et particulier aussi. Peut-être que bah, toi, tu adores t'étirer après. Kaina, elle adore s'étirer avant. En fait, l'important, c'est déjà de les faire. Il y a quand même un bénéfice. Si, il faut les faire, je suis désolée. Je suis désolée. Il va falloir le faire. La dame te dit qu'il
Mauvaise
faut le
élève, tu n'en voudras pas, je suis mauvaise
faire.
élève. Donc, je ne tiens jamais, effectivement.
Mais il faut, en fait, le fait de le faire, c'est bien pour, en fait, pour tout le bénéfice que ça apporte, parce que tu le dis toute seule, tu es raide comme un bâton, Marie. Et en fait, tu t'en rends compte, en fait. Par contre, ce qui est positif, c'est que tu as une énorme marge de progression, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau. Tu te rends compte qu'en le faisant un petit peu tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, pas plus, tu arrives vraiment à améliorer ton corps. Il a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Ce n'est pas trop tard pour toi.
Okay. C'est pas trop tard pour moi. Un jour, on fera, je pense, une vidéo de moi qui m'étire. Si on veut se marrer un peu, quoi, je veux dire. On devrait se faire ça toutes les
Je
trois et
crois.
on voit laquelle a la pire mobilité. Moi, je vote pour le coup.
Ah, ça,
Je vais.
moi, ça dépend. Ça, non, non, je vote. Je sais pas. Joker. Non, Joker. Joker. Joker.
Donc, si je résume un petit peu. Peu importe si tu veux le faire avant ou après, il faut quand même que tu le fasses à un moment donné pour gagner en amplitude, parce que c'est pas forcément sur la construction musculaire que ça va te t'aider, mais ça va surtout être sur ton amplitude de mouvement. C'est pas forcément l'étirement en lui-même qui va réduire ton risque de blessure, mais de gagner en amplitude de mouvement, tu vas pouvoir monter en charge de manière plus sécuritaire. T'es d'accord avec moi jusqu'à là?
Tout d'accord.
Ok. Donc avant ou après, peu importe, il faudrait mieux, au lieu de se faire 15 minutes ou 2 fois 15 minutes dans le week-end ou 30 minutes dans le week-end, il faudrait mieux se faire tous les 2-3 jours grand maximum d'espacement. Plus tu le fais, si tu le fais tous les jours, tant mieux. Mais ça
Ouais.
serait bien de ne pas passer 3 jours sans en avoir enfin, sans en faire.
Ouais, c'est surtout la régularité en fait. Là, je t'ai dit des notions de jour, mais c'est surtout, oui, si tu veux, préfère une fois tous les 5 jours plutôt qu'une fois par mois. Mais en fait, le fait de le faire quand même de manière régulière, tu gagnes
Ok.
plus en faisant ça.
Ok, donc de la régularité. Combien de temps tu aviserais les personnes pour que c'est un impact sur tes enfin, sur ta mobilité articulaire? Combien de temps tu conseillerais toi les personnes qui veulent se mobiliser?
Ça, c'est ultra vaste. Ça dépend aussi le muscle que tu veux faire. Après, si on se focalise sur un muscle ou un groupe musculaire, ça sert à rien de passer 15 minutes sur un muscle. Par contre, ça revient aussi à ce qu'on disait. Si tu sens l'étirement, si tu sens que ça commence à étirer ton muscle sans arriver à la douleur, tu sens en fait, t'as un premier niveau. On va rentrer un peu plus dans le ultra précis, mais imagine ton ischio. Quand tu te mets en position pour l'étirer, tu as une position. Vous essayerez toutes les deux, mesdames les grandes gymnastes. Tu te mets en position. Tu sens un premier palier de semi-tension qui n'est pas douloureux. Et si tu forces pas, si tu t'insistes pas, tout seul, automatiquement, en fait, il va céder, il va lâcher. Le côté positif que ça va t'apporter, c'est que tu as un étirement du muscle qui est doux, qui est pas en force, et du coup tu vas pas venir solliciter le réflexe tendineux, le coup de j'étire trop, je me recontracte. Ça, c'est le risque à tout prix, en fait, de je me mets un coup, mais mon muscle il va se recontracter et c'est contre-productif. Le but, si tu veux vraiment gagner en amplitude au niveau de ton muscle, c'est de le faire tranquillement sans le brusquer.
Donc, tu me conseillerais de ne pas aller chercher la douleur, d'aller chercher cette sensation de relâchement, mais pas cette sensation de douleur, et après ça fait enfin, décontraction, contraction, un peu comme un ressort qui
Clairement.
viendrait péter, quoi.
C'est ça. Et en fait, on se rend compte en faisant ça sur tous les étirements qu'on a pu faire. En fait, on fait tout ça, la première, hein. Mais on fait tout ça et on se rend compte que très tôt, on arrive à cette sensation d'étirement qui n'est pas douloureuse, mais qu'on a tous oublié de laisser passer. En fait, on le fait, on oublie totalement et on se dit, bah, ça va. Combien de personnes disent, bah, moi, j'arrive à tendre plus la jambe? Oui, mais en fait, on s'en fout. On veut pas que tu tendes plus la jambe, on veut que ton muscle il s'étire sans qu'on le fasse mal, sans qu'on le brusque, et qu'en fait, au long terme, il se souvienne que c'est quelque chose qu'il arrive à faire sans douleur, cet étirement.
Ça super intéressant pour le coup.
Oui,
Parce que
parce
moi
que
j'ai
personne
tendance à... bah ouais, moi j'ai tendance à y aller un peu à la potasse quoi.
ne le dit. Mais tout le monde, parce qu'on nous a appris ça.
C'est
On a
pour ça
passé
que moi
une
je ne me tire pas. Pardon.
vie. Du coup, dans le
Pardon.
coup, je ne fais pas. Mais
Ah,
on nous a
je...
tous appris à s'étirer. Tu vois, le triceps, tout le monde te faisait faire ça à fond et tout ça. Tu peux arriver à étirer ton muscle sans taper le grand écart et sans te déboîter l'épaule, en fait. Et c'est très efficace. Soyons bons.
Il y a un univers pour moi. Vas-y, Kaina. Kaina a une question.
Ouais, du coup, vu que tu parlais de quelques exercices là, est-ce qu'il y a des exercices types où c'est vraiment propre à chaque sport, à chaque discipline, ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient convenir à n'importe quel athlète, en fait, au final, sur des étirements type du quotidien?
Bah, en soi, l'étirement, c'est pareil. Si on revient à ça, ton muscle, il a une origine, une insertion. Et donc, au final, vouloir étirer un muscle, il n'y a pas 20 000 manières de le faire. Alors, tu as des variantes et tout ça. Mais étirer le muscle, souvent, d'ailleurs, c'est d'ailleurs toujours les mêmes exos qui ressortent parce qu'en fait, c'est les mêmes qu'on a trouvés qui sont bien. Après, selon les sports, ça va plutôt être. Bah, tu vois, le type de sport, là, l'analogie avec la course, si tu vas taper un sprint, il faut étirer à fond vraiment. Si tu fais un truc un peu plus long, t'es pas obligé, mais c'est toujours bien de le faire. Il y a des sports où je pense qu'il faut ne pas passer à côté. Bah, le sprint, tout ce qui est gymnastique, ça, en même temps, ça va sans dire. La natte synchro. Mais il n'y a pas forcément d'étirement propre au sport. Il y a un étirement propre au muscle plutôt.
D'accord.
Et à l'explosivité qui va être demandée.
J'avais une question sur tout à l'heure. Tu as prononcé des termes que je trouve très intéressants. Ça va être l'étirement passif et l'étirement actif. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre les deux un peu pour celles et ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi tu parles?
Eh bien, l'étirement passif, ça va surtout être l'exemple même de j'essaye de m'étirer l'ischio et en fait, je mets ma jambe contre un tabouret et j'essaye de forcer d'ailleurs souvent jusqu'à la douleur et je m'incline et j'attends d'avoir mal. L'étirement actif, ça va être plus justement, je mets cette jambe et je viens faire des mouvements tranquillement, plus lent, mais en fait, c'est plutôt toi qui vas venir solliciter cet étirement de ton muscle et que tu vas sentir plutôt que de te poser et d'attendre que tu aies mal ou que tu aies plus mal. On est vraiment dans le mouvement de ce même muscle.
Ok, donc l'un, tu attends que la douleur arrive et que tu étires comme un con, hein, on va le dire. Et le deuxième, tu...
Oser.
Ouais, parce que je peux mettre explicite sur le podcast. Et
Okay.
le deuxième, tu peux donc utiliser ton mouvement, donc soit de balancier un petit peu pour venir chercher une amplitude non douloureuse. Donc tu vas être
Voilà.
actif dans ta façon de t'étirer, c'est ça?
Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup appris. Alors, on a à peu près les mêmes âges, mais dans notre jeunesse, vu qu'on est déjà très âgés, ce n'était pas des choses qu'on faisait. C'est quand même des choses qui sont un peu plus récentes, qu'on commence à découvrir, à creuser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui sortent maintenant et ils sont en train de creuser sur tout ce qui se fait. Parce qu'avant, en fait, on n'avait aucun. On s'intéressait pas vraiment à ça. On s'étirait, il fallait qu'on s'étire, on le faisait, puis terminé. Mais là, on commence un peu à creuser et on se rend compte que les étirements actifs sont quand même un peu plus faciles à faire parce que tu vas jamais chercher une douleur 20 fois de suite, quoi. Si tu te poses et que t'attends et que t'as mal, t'as mal, t'as mal, après tu relâches parce que t'as eu mal. Mais si tu sais que tu vas devoir faire 20 fois ce mouvement en mode étirement actif, tu vas pas 20 fois aller te faire mal. On peut pas tromper une personne 1000 fois.
Et on peut tromper 1000 personnes une fois. Ok.
Voilà. Et ton corps, il va refuser ça.
Très bien. Non, mais c'est très intéressant donc de savoir si on récapitule un petit peu, il faut pas aller chercher une amplitude de ouf jusqu'à la douleur parce qu'en fait ça va être contre-productif. Il vaut mieux faire des étirements actifs où en fait on va utiliser notre mouvement pour aller détendre progressivement notre muscle pour pouvoir gagner en amplitude. Il faut être le plus constant possible en essayant de le faire le plus fréquemment possible, sans avoir besoin non plus d'y passer une demi-heure, mais d'aller étirer
Voilà.
certains
Ouais.
endroits. Ok.
Après, là, on est sur des sportifs, je peux pas dire lambda, mais forcément, une gymnaste en championnat du monde, elle va s'étirer à fond et c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Mais là, on parle de monsieur tout le monde. Le but, c'est d'éviter au maximum les blessures, c'est d'arriver quand même à faire des performances de qualité. Et en fait, pour tout le monde, c'est ce qui va quand même, quoi.
Est-ce que tu connais tout ce qui est application GoWOD et tout ça?
Pas du tout.
Ok, donc il y a des applications comme GoWOD, parce que c'est celle que j'utilise, qui te proposent en fait des routines d'exercice en fonction de de ton score de mobilité. En fait, tu fais quelques exercices, il va te donner un score de mobilité en fonction de certaines parties de ton corps. Donc ça va être épaules, chevilles, chaîne postérieure, enfin tu vois les grandes hanches, les grandes parties. Et après il va te faire faire des exercices spécifiques à deux zones sur les plus faibles, on va dire. D'accord? Donc moi c'est épaules et hanches pour le coup. Et donc en gros j'ai une routine d'étirement que j'essaie de faire le plus régulièrement possible et qui peut durer entre 8 et 15 minutes, 8 et 22 je crois, 8 et 22 minutes par jour. Est-ce que ça c'est suffisant?
Bah, là, tu vois, c'est assez spécifique. En fait, c'est un peu comme c'est notre grande problématique, nous, les kinés, c'est que c'est tellement spécifique à chacun que c'est dur de dire oui, c'est bien, non, c'est pas bien. En fait, toi, il me semble qu'au niveau de l'épaule, c'est pas ouf.
Non, c'est clairement
Donc,
pas ouf. Ouais.
passer du temps dessus, c'est vraiment une bonne chose à prendre en compte que, par exemple, l'épaule. En fait, tu as la mobilité de ton épaule, mais du coup, elle va être liée à tout ce qui est scapula, partie thoracique. Donc, je pense que au niveau de tes côtes et toute la cage thoracique, donc toutes tes dorsales, tu as beaucoup de choses à faire en termes d'étirement aussi. En fait, quand tu as une douleur dans une zone articulaire, souvent, ça a déjà eu un peu le temps de compenser. Donc, je pense que tu vois, entre 8 et 22 minutes, si tu arrives à faire un petit peu toute cette, tu vois, la partie thoracique. La partie claviculaire, l'épaule, c'est pas trop. Hein. Et pareil, la hanche, c'est un. Enfin, pardon, mais c'est un bordel monstre parce que oui, t'as la hanche, mais en fait, du coup, ta hanche, elle est quand même liée au bassin. Au bassin, après, t'as tout ce qui est abdos, t'as le viscéral, t'as plein de trucs à faire. Donc, c'est pas énorme.
Donc il vaudrait
Comme.
mieux, si j'arrive à comprendre, il vaudrait mieux faire un full body en étirement. Comme ça, tu es sûr d'aller venir taper tous les angles, grosso modo, et tous les muscles qui viennent interagir avec les articulations qui peuvent te poser problème, plutôt que se concentrer, par exemple, que sur mon épaule, parce que j'ai une douleur et que en fait, il faudrait peut-être que je vois tout ce qui est dorsaux, tout ce qui est cage thoracique et tout. C'est ça?
Ouais, moi, alors ça, c'est, je pense, il y a beaucoup de. Ouais, je sais pas. Moi, je suis vraiment partisane de la globalité du corps parce que je considère que si tu as une douleur à un moment, tu vas avoir une compensation ou peut-être que ta douleur est une compensation en elle-même. Et souvent, quand tu te fais un étirement full body, tu te rends compte qu'il y a des zones que tu suspectais pas forcément raides ou tendues ou douloureuses et qui te font super mal. Et alors, forcément, il y a des zones où tu auras plus envie d'aller insister, mais je pense que c'est super intéressant de voir vraiment tout. Le corps, il est composé, bah, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais d'une zone d'étirement de chaîne postérieure, chaîne antérieure. J'aime bien voir le corps comme des chaînes de flexion, chaînes d'extension. Tu as des chaînes croisées, tu as des chaînes viscérales, tu as des chaînes. Enfin, t'as plein de trucs et ton corps est en mouvement en fait. Donc une douleur à un endroit et à un moment va être compensée. Le corps a horreur du vide et des choses qui vont pas. Donc lui, tout de suite, il va venir compenser. Donc oui, c'est plus important de venir voir la zone où t'as mal, forcément, on est d'accord, mais il faut pas négliger les autres.
Ok, c'est clair pour moi. Kéna, est-ce que tu avais des questions?
Alors moi, j'ai une... enfin, on est toujours sur les étirements, mais est-ce que tu arriverais à me dire l'impact que ça a sur des perfs, en fait, les étirements? Ou est-ce que c'est vraiment abstrait? Enfin, est-ce que ça a réellement un impact sur la performance d'un athlète ou c'est plutôt sur son bien-être et son quotidien, en fait, que plus sa performance?
Bah, c'est dur à quantifier comme ça, parce qu'en général, les athlètes s'étirent tous. Il n'y a pas de... Tu vois, en fait, c'est aussi la difficulté de faire une étude scientifique, parce qu'on sait que c'est bien, mais pour faire une étude scientifique, il faut que tu aies un groupe placebo et un groupe qui fait. Et en fait, on n'arrive pas à se passer de ça quand même. Donc, on ne peut pas trouver quelqu'un qui ne fait pas d'étirement. Mais après, tout ce qui... De toute manière, tout ce qui est mouvement et étirement au maximum en fait des positions du corps, ça a forcément un impact positif. Mais c'est très dur de le quantifier. On
OK.
n'arriverait pas à quantifier, tu vois, quelle vitesse il va gagner, quel degré il va gagner. Et par contre, effectivement, ça a un effet ultra positif aussi sur tout ce qui est le ressenti de son corps, le schéma corporel, qui est ultra utile dans le sport si tu veux te pousser un petit peu. Mais c'est des choses qui sont pas quantifiables. Et oui, qui sont ultra importantes en fait pour tout ça, quoi.
Et du coup, à quel âge on pourra attaquer les étirements avec les petits?
Bah,
Dès le
tout le temps.
début?
Ouais. En fait, là, tout à l'heure, on parlait des chaînes de flexion, d'extension, tout ça. Un bébé, à partir du moment où il se met assis, déjà, il a l'acquisition des chaînes de flexion, chaînes d'extension. On a déjà vu, hein. Enfin, on a déjà vu, oui, forcément. Il y a des bébés qui ont des problèmes de hanche très tôt. Ils sont tout de suite mis avec... Alors, c'est des espèces de couches plâtre et tout ça. Bon, il y a plein de trucs. Il y a des compensations. Et en fait, les kinés sont là pour ça. Mais les kinés bossent déjà dessus. Alors, c'est des étirements que tu fais pas pareil. Tu les adaptes parce que c'est des enfants. Mais tu as vraiment des choses qui peuvent être faites très rapidement. Du coup, là, on va venir passer sur des étirements plus dynamiques. Parce que le bébé, il n'a pas envie que tu l'étires pendant 20 minutes, en fait. Mais tu as plein de choses et très, 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 très tôt, tu peux les mettre en action, à adapter,
Ok.
parce que oui, forcément, faut qu'ils comprennent pourquoi tu l'étires dans une position que ça le saoule, mais faut le mettre en place assez tôt, ouais.
D'accord, ok.
Et pour le coup, c'est pas non plus, c'est pas parce que, par exemple, Madame Marie ne s'est pas étirée pendant les 15 dernières années que c'est foutu. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu as une super grosse marge de progression. Quand tu commences, en fait, tu vas vite progresser. Et c'est d'ailleurs, c'est super réconfortant. Tu dis, ça va, je suis pas... J'y
Oui, donc
arrive.
ça peut devenir une routine à n'importe quel âge et enfin.
Alors, moi, pour la petite histoire, je m'étire quand même un peu. Mais en
C'est moi
fait,
qui...
mais depuis que je suis blessée, en fait, c'est un peu le problème. C'est que j'attends d'être blessée, puis d'un coup, je me dis, ah, j'aurais dû travailler sur ma mobilité. Et donc là, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais travailler sur ma mobilité. Et puis après, j'arrête. Et puis après, je suis re-blessée, blablabla. Et là, cette fois-ci, je m'y suis mis et avec mon fils de 8 ans, pour le coup, un des jumeaux. Et je suis hallucinée parce que moi, ça bloque. Tu vois, je suis en étirement. Là, c'est du passif. Je suis en étirement passif. Je dis, ah oh là, ça tire. Et il me dit, moi, je sens rien du tout. Et il est à fond les ballons, genre limite. Donc, genre, on en revient au grand écart, hein, quasi à mon grand écart. Il me dit, ouais, je vois pas trop. Et moi, je suis là, t'es en PLS à 45 degrés, t'es en mode, genre, ah, j'ai mal partout. Et lui, il est là, non, ça. Lui, il me dit, moi, franchement, ça sert à rien. Donc, je pense que là où tu as raison, c'est que si tu habitues ton enfant à s'étirer régulièrement, déjà jeune, il gardera cette amplitude qui fait sa force à son jeune âge. Alors que, tu vois, moi qui me suis jamais étiré, mais même à l'époque, quand je faisais du handball, d'où l'épaule d'ailleurs, on s'étirait très peu. Donc, en gros, j'ai jamais eu cette routine. Et donc, j'ai mon corps à compenser depuis toujours là-dessus. Et donc, j'ai perdu ma mobilité de base. Mais je pense que si tu commences plus jeune avec tes enfants, effectivement, tu peux garder cette mobilité que tu as de jeunesse.
Ben, c'est ça, les enfants sont... D'ailleurs, c'est ça, tu me demandais, Kaina, mais les enfants, ils sont super mobiles. Quand tu veux les étirer, au début, ils sentent rien. Du coup, on va plus parler de mobilité, des choses à entretenir et à garder, parce que, en fait, notre corps, il vieillit à partir de 20 ans. Hein. On grandit, à 20 ans, en général, c'est fini pour nous. Alors, c'est pas beau à dire,
On est encore
mais en
jeune,
fait,
nous,
moi, j'ai 20 ans, perso, tu le vois
pareil.
comme ça. Mais à partir de 20 ans, en fait... toutes tes cellules, tout ton corps. Alors, c'est très lent, c'est très tranquille, mais il y a beaucoup de stocks de choses que tu as à la naissance. Les femmes, c'est les follicules. Il y a plein de choses, en fait, qu'on a acquis dès la naissance et qui, en fait, au bout de la vingtaine, commencent tranquillement à se dériter En tout bien, tout honneur. Alors, c'est lourd, c'est très lent, c'est très doux, on ne s'en rend pas compte, ça sent le sapin, quoi. Ça va sur le déclin. Et c'est pour ça qu'il faut garder. Faut garder en fait des petits trucs, c'est les étirements, de bien manger. Bah là, du coup, on va rejoindre aussi avec Marie, mais de bien manger, de bien boire, de continuer à faire des choses. On voit beaucoup parler de tout ce qui est collagène, acide hyaluronique et tout ça. Alors, il y en a qui trouvent que c'est c'est blindé de compléments alimentaires et tout ça, mais notre corps en fait du collagène et c'est des molécules qu'on a dans notre corps déjà et qui, à partir de 20 ans, sont en déclin.
Ta transition, elle est super smooth. Je la trouve
J'adore.
géniale. Elle est magnifique.
Mais par contre, c'est vrai, en plus, c'est
Mais
vraiment
non,
ce
mais j'adore. J'adore.
qu'il faut arriver à intégrer dans la routine. Il y a les étirements, mais il y a tout le reste, quoi. On
Donc,
vieillit.
moi, je trouve ça super. Donc, pas d'inquiétude pour celles et ceux qui ont plus de 20 ans. Même si Carmen nous dit que ça sent le sapin, apparemment, elle nous dit que tout n'est pas perdu quand on commence à faire de la
Voilà.
mobilité et qu'on a une grosse marge de progression. Donc, ça, c'est une bonne chose. J'ai une dernière question avant qu'on enchaîne sur le topic nutrition sur lequel tu viens gentiment de nous faire une transition hyper douce. Ouais, franchement, c'était
Comme
magnifique.
les étirements, c'était beau.
C'était beau et c'était doux.
Voilà.
Est-ce que tu crois à tout ce qui est balle de massage, pistolet de massage, rouleau de massage, tout ça? Est-ce que c'est des choses qu'il faut avoir chez soi absolument ou est-ce que c'est des choses que dont tu peux largement te passer, tu n'en as pas besoin?
Moi, j'aime beaucoup. J'adore. Je trouve ça ultra efficace. Moi, j'ai un petit rouleau. Sans me la raconter, le soir, je me mets le petit rouleau dans le dos. En mode juste position tranquille pour me relaxer de la journée. Je trouve ça ultra efficace, ultra important, autant les balles que le pistolet, mais c'est pas le truc obligatoire. Si tu t'étires régulièrement, t'es pas obligé d'acheter 20 000 petits gadgets super chers dans ce sens. Si c'est quelque chose qui te fait aimer les étirements et te trouver une routine, mais vas-y. J'encadre un groupe de natation synchronisée. Je leur avais demandé d'acheter des balles et il y en a une qui m'a trouvé une petite balle chez Maxizo. Et en fait, elle est très bien. Donc, n'hésitez pas à avoir la petite balle du chien. Il y a plein de trucs super bien. Là, c'est ça, pas forcément à des prix excessifs. Et il y a vraiment des trucs sympas à faire si ça peut vous faire aimer les étirements et les postures, quoi. Faut que vous ayez quelque chose de cool et sympa que vous puissiez faire régulièrement sans vous dire, allez, c'est bon, on est encore avec ce truc. Trouvez un truc fun et vous trouvez une routine, un moment dans la journée où c'est facile à faire et c'est parti.
Perso, personne n'aime le rouleau de massage. Je veux dire, moi, j'en ai un picot là. J'ai l'impression que à chaque fois, c'est du sadomasochisme.
Mais tu fais quoi avec ton rouleau? Faut le faire rouler tranquillement. Il y a plein de trucs
Bon,
super cool.
on ne veut pas savoir ce qu'elle fait de son rouleau.
Je vais vous expliquer le coup du rouleau. Allez, je vous ramène le rouleau la prochaine fois. Il
Ouais,
est
je veux bien.
génial. C'est
Ah ouais, moi, je
génial.
supporte pas. Ça me fait trop mal. Je te jure, quand je te dis j'ai mal,
Vrai?
physiquement, j'ai. Ah ouais, j'ai mal. Il est ferme avec des picots rouges là. Ça doit être un truc de D4.
Ouais.
Et je te jure, je suis en PLS. Je me roule comme ça, mais je suis en PLS. Ça me fait
Ben oui,
juste
mais si
mal.
tu te roules au début, pour le coup, là, on va revenir à ça. Au début, tu peux te positionner en statique sur des choses qui sont trop dures. Tu te mets en statique, le rouleau, par exemple, juste en dessous des omoplates. Tu lèves tes bras et t'attends. Et là, en fait, ouais, du coup, tu vas pas lever beaucoup au début, mais on est vraiment là sur la gravité qui va aider tranquillement tes structures à s'étirer. Donc, c'est pas toi qui forces, c'est toi qui te poses. Et en fait, tranquillement, bon, tranquillement, ça reste relatif, mais ton corps, en fait, il va réussir à avoir un certain étirement de tes structures.
Ok, super. Bah, j'essaierai dès ce soir. C'est quoi? Je te
Voilà.
ferai une
Je
photo.
veux une photo.
Très bien, promis. Donc, tu as mené avec délicatesse donc, le sujet de la nutrition. Et je sais que Kaina avait une question qui l'importait sur la nutrition. Kaina, tu veux bien poser ta question parce que je la trouve hyper
Ouais.
intéressante.
Ouais, alors moi, du coup, c'était concernant surtout les sportifs, enfin les sportifs, mais au point de vue général, mais vraiment sur les sportifs, comment toi, t'arrives à accompagner ces sportifs à qui on en demande toujours plus, au final? On demande d'être performant, on demande d'être très, très bon dans tout et qui dévie un petit peu sur ces troubles alimentaires qu'on connaît, hein, parce que c'est de plus en plus fréquent, on en entend parler de plus en plus. Et j'aimerais bien savoir comment toi, tu arrives à accompagner ces sportifs-là pour justement pas qu'ils partent dans ces extrêmes de performance, oui, mais pas au détriment de leur santé et de la nutrition, en fait, tout simplement.
Ouais. Alors en fait, je vais reprendre déjà le terme. Pour moi, c'est important qu'on définisse ensemble. Le terme sportif, pour moi, il est assez large dans ce sens-là, puisque tu vas avoir des athlètes qu'on appellera sur le podcast des athlètes du quotidien. C'est monsieur et madame tout le monde qui font du sport et qui cherchent quand même à se challenger, qui cherchent quand même à venir chercher de la performance, soit dans leur sport, soit dans leur quotidien. Pour moi, eux, ils sont sportifs, d'accord? Donc, je vais les prendre dans cette globalité, puisque ça va être la majorité des personnes que j'accompagne. À mon sens, il y a plusieurs type de TCA ou en tout cas plusieurs origines de TCA. Tu vas avoir l'origine, à mon sens, tu vas avoir l'origine externe qui va te parler. Cette origine, elle vient de quelqu'un qui t'a dit quelque chose, d'accord? Un parent qui t'a dit que t'étais grosse, un proche qui t'a dit oh, regarde, t'as ta petite bouée. Ou à l'inverse, quelqu'un qui va te faire un compliment sur ton physique, mais que tu vas prendre de manière hyper négative. Donc ça va être la première, à mon sens, le premier facteur de trouble alimentaire. Ça va être une critique externe, d'accord? T'es pas responsable. Le deuxième, à mon sens, ça va être la volonté de vouloir performer. Et dans ces cas-là, on va être sur de l'interne, d'accord? On va se dire, bah, je vais essayer de absolument tout contrôler. Et en gros, à vouloir trop bien faire, eh ben, je vais tomber dans ces travers. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie dans cette dynamique-là, donc je n'étais pas dans un facteur externe, mais j'étais plutôt dans un facteur interne, en me disant, bah, si je fais extrêmement bien les choses, si je me prive deux fois plus que les autres, bah, j'aurai deux fois plus de résultats, ça ira deux fois plus vite sur un aspect esthétique. D'accord? Donc effectivement, tu vas avoir ces facteurs externes qui vont être donc des compliments, enfin des compliments ou des attaques, d'accord? Ça peut être des attaques de coach hein, aussi. On l'a déjà toutes vues dans des sports de performance. Tu vas avoir un coach qui te dit bah t'es trop grosse pour performer. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'en sait rien, mais pour lui, t'es trop grosse pour performer. J'avais une athlète qui était venue me voir, une athlète qui faisait du canoë kayak, qui s'était qualifiée pour. Enfin, qui cherchait la qualification pour les Jeux Olympiques. Elle avait un niveau de fou. Et en fait, elle est partie faire un stage en Afrique du Sud, si mes souvenirs sont bons. Et là, le coach lui a dit, ben en fait, pour les qualifs en Afrique du Sud, il va falloir que tu perdes 4 kilos. Et tu as 3 semaines, quoi, grosso modo. Donc la nana a arrêté de manger, quasiment, d'accord? Elle mangeait quasiment plus rien. Et elle a loupé les qualifs parce qu'elle était tellement épuisée qu'elle ne pouvait pas performer. Tout ça, parce qu'il y a un pauvre gars qui s'est dit que peut-être que si elle était plus légère, elle irait encore plus vite. Alors qu'il ne s'est pas du tout posé la question que peut-être parce qu'elle était un peu plus lourde que ses camarades, elle avait plus de force que ses camarades et c'est pour ça qu'elle les explosait tous. Et en gros, c'est quand même triste, et moi je trouve ça dommage, qu'un coach vienne mettre en. Vienne critiquer un aspect physique d'une de ses athlètes à la recherche d'une performance qui est des fois contre-productive. Alors, je te dis pas qu'il faut pas les encourager à faire attention et à s'alimenter correctement, et parce qu'il y a des fois, il y a des catégories de poids, en particulier dans l'haltérophilie, par exemple, dans la boxe, dans ce genre de sport, où tu as besoin forcément d'avoir une certaine catégorie. Tu as aussi la gymnastique, où tu as besoin d'être hyper légère et tout. Enfin, il y a quand même des choses qu'il faut que tu mettes en place. Mais sur certains sports, et à mon sens, c'est sur tous les sports en général, il faut que les coachs aient une certaine pédagogie d'accompagnement des athlètes sans avoir besoin d'être une critique en particulier sur l'attaque d'une composition corporelle qui en fait sont des facteurs extérieurs qui provoquent des troubles alimentaires. Donc sans suivi, elle a loupé ses qualifications aux Jeux Olympiques et sans suivi, une grande vallée de troubles alimentaires entre anorexie, boulimie, qu'on connaît toutes, en tout cas pour en avoir déjà entendu parler. Deuxième cas de figure, donc le mien, je vais prendre le mien en histoire. Tu cherches à être parfait tout le temps, à tout contrôler, à tout maîtriser, en te disant bah tu vas être plus performant plus vite. D'accord? Tu entends beaucoup de personnes qui disent bah si tu fais aucun écart et tout, tu vas aller plus vite puisque enfin, tu prends des raccourcis entre guillemets et tu vas aller plus vite. Le problème de cette attitude, c'est qu'en fait tu rentres dans une dynamique où tu vas chercher toujours plus loin, tu vas aller tâter des extrêmes et donc tu vas aller tâter de la privation, tu vas aller tâter des choses que tu devrais pas aller chercher puisque tu vas tomber dans cette dynamique où la nutrition et l'alimentation devient quelque chose d'angoissant. Et plus quelque chose de nécessaire. D'accord? Ça veut dire qu'au lieu de compter les calories pour te dire il me faut tant de calories pour que je puisse performer, tu te dis je vais brûler tant de calories pour pas prendre un gramme. Et là, c'est toute une autre dynamique. Donc quand tu prends en charge des athlètes qui viennent d'une ou des deux facettes des troubles alimentaires, il faut que déjà que tu t'interroges, savoir d'où ça vient. Et ça, Kaina, ça va être plutôt ton domaine pour le coup, sur le côté mindset. Savoir en fait d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose parce que c'est inné à toi et tu veux être parfait, ou est-ce que c'est extérieur, tu as subi une attaque et c'est comme ça que tu y réponds. D'accord? Ouais, je t'écoute.
Bah justement, c'était ma... je me posais la question, mais du coup, peut-être entre Kaina et toi, ça va faire ping-pong. Mais est-ce que toi, tu arrives à déceler? Parce qu'en fait, dans ces troubles alimentaires, il y a une phase de déni. Ces personnes, au début, elles ne se rendent pas compte et quand on leur dit, en général, elles rentrent totalement dans le déni. Est-ce que toi, tu arrives à déceler? Est-ce que c'est quelque chose, après, je me doute en termes de gestion, c'est quelque chose super compliqué parce qu'il faut en même temps driver et en même temps leur laisser un peu de mou. Est-ce que toi, tu arrives à déceler un petit peu ce genre de cas et les causes du coup?
Alors moi j'ai beaucoup de chance quand ils arrivent à moi, c'est qu'ils en ont déjà conscience.
Ok,
Puisque
bien.
généralement quand tu prends un coach nutrition, c'est que tu te dis qu'il y a un problème dans ta nutrition et que tu es déjà dans cette phase d'ouverture en te disant il y a peut-être un problème sur ce côté. Et donc quand on a des discussions avec les athlètes, c'est qu'ils mettent déjà dans leur questionnaire qu'ils ont des TCA ou une relation angoissante à la nutrition ou qu'il y a eu un problème. Donc quand ils arrivent jusqu'à moi, j'ai déjà une pile de réflexion. La prise en charge, que ce soit un TCA extérieur, en tout cas d'origine extérieure ou intérieure, ça va être grosso modo la même chose. Parce que ça reste un TCA et que de toute manière, il y a une prise en charge à garder. Encore une fois, je ne suis pas professionnel des TCA et je ne suis pas médecin non plus. Ça veut dire que les personnes qui ont des troubles alimentaires extrêmement sérieux, d'accord, je les conseille d'aller déjà voir un médecin qui sera spécialisé, puisque selon la gravité du TCA, c'est vraiment une mise en danger de la personne. D'accord? Donc moi, je ne prends pas forcément des athlètes qui ont des gros TCA s'ils n'ont pas déjà une prise en charge médicale. S'ils ont déjà fait la prise en charge médicale, ils ont déjà des pistes de réflexion, pourquoi pas. Mais c'est déjà quelque chose qu'on met en place si ça n'a pas été fait, ou c'est des choses que j'évoque, puisqu'en fait, je n'ai pas la capacité et la légitimité pour arriver à les prendre en charge dans un cadre médical. Kaina, tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet?
Non, non, je voulais juste revenir sur, tu disais, les facteurs internes et externes. Et donc, là, tu les as bien distincts pour que tout le monde comprenne. Mais des fois, la difficulté, c'est que les deux sont liés. C'est-à-dire que des sportifs et même l'athlète de tous les jours, monsieur ou madame tout le monde, quand il a des objectifs, il va entendre ce que va dire la personne lambda à côté d'elle. Mais il va aussi avoir ce côté... pour soi, d'être super exigeant parce qu'il va atteindre son objectif, parce que... Et du coup, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut... Des fois, les deux sont... Enfin, ça c'est même pas que c'est compliqué, c'est que ça engendre encore un peu plus de troubles, à mon sens. C'est que c'est... Des fois, c'est vraiment les deux. T'as l'externe et l'interne. Et travailler sur ce côté-là est important et surtout très compliqué tant qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait... Enfin, qu'ils avaient ces troubles, en fait.
Tu as raison. J'ai beaucoup de chance, c'est qu'une fois qu'ils arrivent vers moi, ils ont déjà conscience. Parce qu'à mon sens, et c'est ce que disait Carmen, la prise de conscience est la plus difficile. Quand tu as quelqu'un qui a des troubles alimentaires autour de toi, tu as beau leur en parler, tu as beau essayer de leur dire attention, ils se ferment à chaque fois et ils n'ont pas forcément cette conscience. Tu vas avoir un déclencheur à un moment donné. Alors j'ai pas mal de nanas, une grossesse. Un petit copain, quelque chose qui va provoquer ce déclencheur et qui va se dire, OK, là j'ai un trouble alimentaire, je suis pas comme tout le monde, je sens bien que la nutrition m'angoisse, et dans ces cas-là, il commence à avoir une dynamique. Le problème d'une personne qui n'a pas encore conscience, c'est que c'est, je dirais pas impossible, puisque j'aime pas partir dans les extrêmes, mais c'est extrêmement difficile de lui faire comprendre, puisqu'en fait, tu deviens le messager, et tu es généralement le messager à buter.
C'est
Et
vrai. Et du coup, j'ai une question un peu vague, mais comment tu arrives à doser? Parce que du coup, dans ce genre de cas, on est avec des gens qui sont addicts au contrôle et qui veulent tout faire. Et que toi, en fait, dans ta spécialité, faut contrôler pour savoir où on est. Et en même temps, c'est des personnes qui ont besoin aussi d'un peu de lâcher prise. Et du coup, comment tu arrives à jauger? En fait, il y a un moment, faut donner du mou et à un autre moment, faut quand même contrôler. C'est une
c'est
question à double
ouais. Non, mais
sens.
c'est que t'as raison, c'est extrêmement difficile en fait quand t'as des personnes qui cherchent le contrôle. En plus, ma méthode fait que j'aime pas, parce que je viens de ce monde, j'aime pas tout contrôler. D'accord? On va avoir des périodes où on va peser nos macros et tout, mais c'est extrêmement peu longtemps et c'est juste pour checker qu'on est sur la bonne voie. On va surtout utiliser ce qu'on appelle la technique manuelle, ça veut dire qu'on va utiliser une technique visuelle, pas manuelle, ouais, visuelle, pour en gros construire ses assiettes d'une manière cohérente. Ça peut angoisser beaucoup de personnes qui ont l'habitude de absolument tout peser, absolument tout peser. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les prendre, on va établir un plan. En raison qu'ils peuvent continuer à tout peser, mais déjà qu'ils prennent des photos de leurs assiettes. Pourquoi? Parce que visuellement, je veux qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et après, au lieu de leur dire, bah, tu vois, tu devrais manger 20 grammes de plus de protéines ou je sais pas combien, on ne parle pas de grammes. Et en fait, on va dire, bah, regarde, moi, par exemple, sur cette assiette, bah, j'aurais mis plus de protéines. Essaye d'en mettre plus la prochaine fois, tu n'as pas besoin de peser, juste en mets plus. Et en fait, on
OK.
travaille visuellement, progressivement, progressivement. Deuxième chose extrêmement importante, c'est qu'on va essayer d'introduire la flexibilité. Le problème, c'est qu'on arrive sur. Ouais. Le problème, c'est qu'on arrive sur des personnes qui sont extrêmement inflexibles, d'accord? Donc, qui ont enlevé tout ce qui est aliment sucré déjà, l'alcool, ça a dégagé, tout ce qui est non qualitatif, ça a déjà dégagé. Le problème, c'est qu'on arrive sur des corps qui sont extrêmement abîmés, d'accord? C'est des corps qui sont sous-caloriés généralement depuis un max de temps. Ça veut dire que c'est des corps qui vont avoir tendance en plus, quand on commence à être un peu plus flexible et à manger plus, à prendre. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui va commencer à stocker, parce qu'en fait, il a tellement eu peu à manger pendant tellement longtemps, qu'en gros, si on lui donne plus, il va commencer à stocker. Et ça, c'est un process où il faut absolument en parler avec la personne. Et c'est pas facile. Et il faut en parler dès le début. En fait, ton corps va commencer à stocker. Tu vas prendre du poids. Déjà, chose, j'aurais peut-être dû commencer par là, on enlève la balance. Pourquoi? Parce que
Ouais.
la balance, elle te donne qu'une masse, mais elle te dit pas ce que c'est. Elle te dit pas si c'est de la flotte, elle te dit pas si c'est du gras, elle te dit pas si c'est du muscle. La balance, elle dégage. J'essaie de leur faire balancer la balance, soit la
Bon.
poubelle, soit le plus, ouais, je sais, soit le plus loin, 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 loin possible, d'accord? Donc on enlève les piles, on les met à un endroit très, 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 très à la con, pour pas qu'ils aillent la chercher, parce que c'est généralement un rituel et c'est généralement quelque chose qui est extrêmement ancré dans leurs habitudes. Donc on essaie de virer la balance. Ensuite, donc on va faire cette technique visuelle et introduire un petit peu de flexibilité, mais on va aussi avoir une énorme conversation sur, ok, voilà comment ton corps va réagir. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont besoin d'un plan. Sans plan, avec un flou, ils sont complètement en panique. Donc ils ont besoin d'un plan. Ok, pendant quelques semaines, ton corps, tu vas sentir qu'il va prendre de la volume, il va prendre de la masse. Pourquoi? Parce que tu l'as tellement privé qu'il va en fait stocker. Du moment où il va te faire confiance parce qu'il s'aperçoit que tu as enfin compris qu'il faut qu'il mange plus, il va être en capacité de pouvoir relâcher. Mais ça peut prendre plusieurs mois. D'accord? Il y a des personnes, ça peut prendre plusieurs mois. Donc ça veut dire qu'il y a, à un moment donné, une conversation difficile qui est, je sais que ça va être dur psychologiquement pour toi, je veux plus que tu te pèses, je veux même pas que tu te mesures. Mais il y a une phase de recharge où en fait ton corps, il a besoin de recharger. Parce qu'en fait, si tu passes pas par cette phase, tu pourras jamais performer et tu pourras jamais te sentir bien. Donc ça veut dire que ton corps va recharger. Donc il y a une petite phase de prise de masse hein, généralement, mais qui va être extrêmement bénéfique pour la suite puisque le corps va être re-en santé. On va avoir des nanas qui vont retrouver leurs règles. On va avoir des gens qui vont re-avoir des cheveux qui poussent. On va avoir des gens qui, en fait, ont des ongles en bonne santé, une peau en bonne santé, un sommeil correct, les hormones, ça va mieux et tout ça. Et en fait, on va avoir des gens qui vont se sentir plus d'énergie. Et donc, on va essayer de voir les petites victoires du quotidien. J'ai dormi mieux aujourd'hui, super, grosse victoire. J'ai plus de patates aujourd'hui, génial, grosse victoire aussi. Toutes les victoires qui ne sont pas mesurables avec avec une balance ou avec des centimètres, puisqu'en fait, c'est ça qui va être extrêmement important. Donc ça va être la première étape. Et après, on va passer sur une étape où en fait, on va essayer de partir sur quelque chose qui va être, on va dire, phase 2, objectif. C'est-à-dire que c'est généralement des gens qui veulent être encore plus secs qu'ils ne l'étaient. D'accord? Donc là, on va essayer d'y aller progressivement, extrêmement lentement, en fonction de là où ils arrivent. Il faut savoir que j'ai déjà accompagné des gens qui mangeaient 900 calories par jour. Pour celles et s'entraînant 2 fois par jour au CrossFit. Pour celles et ceux qui écouteraient, 900 calories, ce n'est même pas la quantité qu'un enfant de 5 ans devrait manger. D'accord? Donc, grosso modo, on est vraiment en sous-calories.
Pense que c'est
Pour
mon
les.
privilège.
Ouais, et encore. Donc, en gros, on devrait être. Pour une personne dans cette cas figure qui s'entraîne 2 fois par jour, on devrait être entre 2300 et 2500 cal, d'accord, par jour, à vue de louche. Donc, vous imaginez le déficit que cette personne avait. Donc, beaucoup de troubles alimentaires, beaucoup de fringales, beaucoup de choses comme ça. Donc, déjà, il faut commencer à rassurer. Il faut y aller extrêmement progressivement. Tu peux pas passer de 900 à 2500. La personne, elle capote. Ça marche pas. Il faut y aller vraiment petit à petit. Il faut être extrêmement patient. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Kaina, pour vous.
Ah, si, si, totalement. Ah, si, si, t'es plus que clair et j'aime beaucoup l'approche que tu as. En fait, c'est ta. Tu fais du mindset à fond, en fait. T'es obligé en même temps, t'es obligé. Non, mais t'es obligé à côté de. Enfin, tu peux pas être concentré que sur la nutrition, en fait. T'es obligé d'accompagner à côté pour pouvoir l'aider parce qu'il y a quand même cet aspect psychologique qui est plus qu'important, en fait, au final. Et je trouve, j'aime beaucoup ta méthode déjà de. Bah, la balance, elle dégage. Allez, c'est parti. Non, mais c'est important. Et de mettre aussi, enfin après, je sais pas, tu ne me l'as pas dit, mais j'ai l'impression que tu mets aussi de côté l'aspect sport. Enfin, ils font du sport à côté, mais il n'y a pas d'objectif de performance, il n'y a pas d'objectif. On est vraiment sur l'aspect bien-être, remise en confiance et réappropriation de son corps. Et ça, j'aime. Enfin, je trouve ça super intéressant.
La première phase, elle s'appelle recharge et pas pour rien. Parce qu'en fait, c'est ça, on va recharger un corps qui est abîmé, on va recharger un corps qui n'a pas eu tout ce dont il avait besoin pendant des années. Donc, on va vraiment on le met sur une prise, quoi. On va lui donner plus à manger de manière extrêmement progressive pour pas non plus développer à l'inverse une terreur de la nutrition. On va vraiment y aller extrêmement lentement. On pèse pas, on enlève ses balances, là, tout ça, tout ce qui est angoissant, là, tous les chiffres. Moi, j'ai déjà vécu ça aussi. Toute cette pesée, en fait, on la fait pas forcément. On la fait pas du tout d'ailleurs sur cette phase. L'objectif, c'est de se concentrer sur l'énergie. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'objectif de cette première phase, c'est de recharger. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a vachement de performance dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont vachement plus la patate. C'était pas forcément notre objectif numéro un, mais en fait, il y a vachement la patate. Il y a des PR dans tous les sens. Enfin, moi, j'accompagne des crossfitters, donc il y a des temps qui s'améliorent dans tous les sens. Il y a de l'énergie à gogo. C'est des gens qui d'un coup découvrent que bah, ils ont pas besoin de faire sieste l'après-midi parce que bah, ils se sentent mieux. Enfin, il y a des back squats dans tous les. Enfin, donc, il y a en fait cette phase de performance qui en fait arrive de manière assez naturelle. Et c'est rigolo parce que quand on passe sur la deuxième phase, qui va être plus une phase de boost, où là on va se concentrer plutôt sur les résultats physiques, d'accord? Et ben, à chaque fois, les personnes me disent, ouais, mais moi, je ne veux pas sacrifier ce que je viens de gagner, quoi. Et là, c'est un grand pas. C'est un grand pas parce que d'un coup, ils se sont dit, putain, mais c'est génial toute cette énergie. J'ai, tu vois, je ne veux pas sacrifier ça. J'en ai besoin. D'accord? Après, tu vas avoir des personnes qui sont plus ancrées dans leur TCA et qui vont demander plus de temps sur le côté mindset, puisque en fait, c'est un apprentissage qui est long. Et je pense que, tu vois, ayant eu des TCA, tu guéris jamais vraiment de TCA. Tu as toujours des TCA. D'accord? C'est une petite voix dans
C'était
ta
la
tête. C'est une petite voix dans ta tête et elle sera toujours là. Des fois, elle est très très forte. Quand tu es en pleine crise, elle est très très forte, d'accord? C'est même elle qui dirige. Et quand tu vis au quotidien, c'est une toute petite voix que tu n'entends pas du tout dans tes oreilles ou presque pas, mais tu sais qu'elle existe, d'accord? Pour des personnes qui en gros auraient par exemple, je sais pas, une rupture, perte de travail, je leur souhaite pas, perte d'enfant, peu importe, un drame, d'accord? Et ben généralement, ça serait ce genre de période où en gros la voix prendrait le dessus, puisqu'en fait ça reviendrait puissance 1000. C'est pour ça que tu as raison, c'est un gros travail de mindset, à mon sens, dans lequel je me sens légitime parce qu'en fait, je l'ai vécu. C'est tout ça, c'est ma vie, en fait. Donc, je l'ai vécu, je le vis aussi, cette petite voix et tout. Après, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui veulent absolument brûler des calories pour brûler des calories. Et ça, en fait, j'essaye à chaque fois de leur dire, en fait, c'est pas comme ça qu'on va avoir la vie. Ça sert à rien de brûler des calories pour brûler des calories. Ouais, mais je veux perdre du poids. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Pourquoi? Parce que si tu perds pas du poids à 900 cal, essaye de
Ouais,
rien
attends.
manger, mais tu perdras pas du poids non plus pour le coup.
Tu perdras un os,
Et
peut-être.
encore? Et
Ah, mais
encore?
le truc, le problème, c'est aussi la société dans laquelle on est. Enfin, on est quand même sur. Enfin, l'apparence a pris une place super importante, alors que ce soit dans le monde du sport et en dehors, en fait, au final. Donc, je pense que la perception du corps et la perception de ce dont on a besoin. Dans le sport, en tout cas pour performer, elle est totalement biaisée en fait. On est, enfin, j'ai l'impression que le regard est devenu totalement biaisé en fait sur comment doit être un corps performant en fait.
Et regarde sur Instagram, tu passes ta vie à te comparer aux autres. Donc nous, les crossfitters, on n'est que abonnés à des chaînes de crossfitters et on voit que des super athlètes, des Tia Claire Toumi aux abdos apparents et tout. On voit que ça toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. On se dit, bah ouais, mais moi, j'ai pas les abdos apparents, donc je suis pas performant, donc je suis une merde, grosso modo. Le problème, c'est qu'on a oublié que notre corps, il est fait pour deux choses, survivre et se reproduire. Donc à un moment donné, tes abdos, ils te servent pas à grand-chose dans ce cas de figure. Donc, non, mais c'est vrai, on a oublié ça, mais c'est important. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que tu passes ta vie à consommer, mais tu sais pas la vie de ces nanas. Et moi, j'en ai un, hein, d'Instagram, avec des abdos de ouf qui m'appellent et qui me disent « je suis en gros trouble alimentaire Elles ont l'air parfaites sur Instagram. Leur vie a l'air parfaite sur Instagram. Leurs abdos ont l'air des sublimés et à quel point elles sont heureuses avec leurs abdos quand c'est toi ce qui te manque. Mais en fait, t'oublies qu'il y a en fait quelqu'un derrière qui souffre hypothétiquement. Et c'est ça que je trouve dommage de tous ces corps à moitié dénudés qui ont l'air tous parfaits et canons. Et encore une fois, les athlètes de CrossFit qu'on voit, ils représentent quoi? 0,1% de la population. Et encore 0,1, je pense que je suis gentil. Hein. Ça représente un pourcentage extrêmement faible de la population qui sont mis en avant et tout, mais ce n'est pas la majorité de la population. C'est généralement des personnes avec des génétiques de ouf barré, déjà, de base, et qui en gros ont un travail de ouf barré là-dessus, et ça ne les enlève pas d'avoir des troubles alimentaires. Je prends un exemple, une des athlètes de CrossFit qui en a déjà parlé, qui s'appelle Sara Sigmundsdóttir, qui est islandaise et qui a des fluctuations de poids comme ça, là. Et tu la vois, hein, de toute façon, sur les réseaux, tu la vois. Et en plus, c'est encore plus dur pour elle, puisqu'elle a des milliers et des millions de personnes qui la suivent et qui lui disent « Ah, ça y est, maintenant, t'es redevenue grosse et tout, quoi. » Moi, j'ai déjà vu des commentaires, tu te dis, genre, et pump elle up. Parce qu'en fait, elle a du mal, en fait. Elle a du mal à savoir comment se nourrir pour performer et que je pense qu'il y a des troubles alimentaires là derrière, puisqu'en fait, elle sait pas du tout comment faire et que c'est compliqué en plus, une fois que tu es sous les feux des projecteurs, d'arriver à avancer, quoi.
Après,
Clair.
ces dernières
Pardon.
années, justement en parlant des réseaux, alors c'est comme pour tout, hein, c'est un algorithme, mais il y a quand même pas mal de comptes qui se créent sur l'anxiété, le ressenti de soi, le mindset, c'est tout ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, c'était Thierry Henard qui a parlé de son coach mental qui lui a juste sauvé la life. Et il y a plein de trucs aussi qui déculpabilisent un peu les gens de se dire mince, le truc de j'ai bouffé une tablette de chocolat, bah ouais, mais en fait, c'est pas grave. Comme tu disais, Marie, il y a des moments où tu as des hauts, tu as des bas et ta petite voix. Et ben des fois, il faut juste l'écouter, lui dire bah ouais, là, aujourd'hui, franchement, ça va pas, la tablette, elle va y passer, mais c'est OK, je l'ai bouffée, OK, je sais pourquoi. Je sais pourquoi d'ailleurs, mais c'est OK. Et j'ai l'impression que ces dernières années, c'est aussi un peu en train de tourner. Le vent va aussi en direction de se comprendre soi avant de faire de la merde. Mais progressivement, c'est assez lent. Et c'est vrai que de toute manière, tout ce qui va être putaclic, passez-moi l'expression, ça va toujours faire plus de likes. Mais ça augmente. Je trouve qu'on voit quand même apparaître de plus en plus. Et les athlètes, ils en parlent. Ils en parlent aussi progressivement de cette importance, quoi. Donc ça va dans la direction,
Mais c'est
tranquillement.
lent. Tu vois à
Ouais.
quel point c'est lent.
C'est
Tu vois à
très
quel
lent.
point c'est lent. Et en crossfit, je veux te dire que les mecs, ils sont même pas échauffés, qu'ils sont déjà torse-poil. Non, mais c'est vrai. Les mecs, ils ont
Mais
fait trois
parce
mouvements de bandeau.
ils ont chaud, puis il faut qu'on voit qu'ils sont beaux. Ils se
Non,
sont
non, mais
rasés
c'est ce que je
le
te
matin.
dis. Bah ouais, ils sont rasés le matin. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, les mecs, ils ont à peine échauffé, ils sont déjà torse-poil. Donc, on est dans un monde où le corps a beaucoup d'importance. Et c'est rigolo parce que je trouve qu'il y a un. Ah, et dans ce monde-là, ça me fait sourire. Il y a un gros écart. Il n'y a pas de miroir, d'accord? On n'est pas en salle de muscu, il n'y a pas de miroir. Et pourtant, tu vois qu'il y a quand même un culte du corps qui est assez fort, mais sous couvert que non.
Ouais, mais du coup, tu vois, c'est à double tranchant. J'en parlais à une copine parce que donc moi, je fais du CrossFit, j'ai un niveau de chips, hein, mais ça m'a déculpabilisée de mon corps. Où, en fait, à force de voir des mecs qui, justement, au bout de trois pompes et cinq sauts à la corde, se foutent torse-poil et que, du coup, la voisine aussi, elle se met en soutif, et ben au bout d'un moment, quand t'as chaud, et ben oui, quand tu t'es un peu échauffé quand même avant, mais moi, ça m'est arrivé, ben, moi, du coup, je reste en soutif aussi, et en fait, ça te fait déculpabiliser aussi de te dire, là, en fait, vraiment, j'ai chaud, je n'en peux plus, et je m'en contrefous. Et du coup, ça a aussi un côté de se dire. Eh ben, en fait, je suis en plein effort et je m'en fous de la tête que j'ai parce que je suis pas trop trop glamour en sport. Et quand on est à bas niveau, c'est déculpabilisant et c'est assez appréciable aussi. Après, c'est sûr que à mon niveau, en fait, on s'en fout que le voisin il ait des abdos ou pas. Mais il y a quand même un côté bénéfique à cette espèce de groupe et de communauté de CrossFit, quoi.
Moi, je
Alors
suis
ça,
hyper
c'était
d'accord avec toi.
ta technique pour essayer de me vendre le CrossFit, en fait, c'est
Mais
ça?
tu
Je
vas
pense que
venir, Kaina, tu ne sais pas encore, tu vas venir. pour
J'ai
celles et
compris,
ceux qui nous écoutent,
j'ai
sachez qu'entre nous, il y a un deal qui s'est produit.
compris.
On va faire une vidéo où je me mets à la
Ah
natation
oui, allez.
parce que je nage tel un roc et pas l'acteur, hein, une vraie pierre. Et
Peut-être que le rock cool aussi.
bah, peut-être qu'il nage très bien. Et Kaina va se mettre au CrossFit. Par contre, je suis absolument d'accord avec toi. Tu as raison, ne crachons pas du tout sur le CrossFit, mais c'est vrai sur les réseaux, il y a un gros culte du corps face au CrossFit. Mais dans les box, il y a aussi, tu as raison, dans les box familiales, parce qu'il y a certaines box compétiteurs où là, tu te jures que t'as pas du tout envie d'enlever ton t-shirt parce que toutes les meufs sont gaulées de ouf, les mecs sont gaulés de ouf et tu te sens juste une grosse merde. Par
T'as pas envie
contre,
de la prendre.
et ça, à mon sens, ça doit être la minorité des box. Et la majorité des box, qui sont plutôt familiales et tout, où tu vois, les mamans et tout, avec des cornes mamans, avec des formes, avec machin, qui aussi sont en brassière et qui aussi, elles, vont chercher la performance individuelle et donc se mettre à l'aise. Enfin, tout le monde, en fait, va performer dans cette dynamique. Et ça, c'est vachement rassurant. Je suis hyper d'accord avec toi. Mais voilà, je voulais faire un parallèle avec les réseaux sociaux. Attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la réalité. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça ne dit pas toute l'histoire. Et en fait, on voit que quelques images et on voit que quelques corps, mais on voit pas tous les sacrifices derrière et tous les problèmes que ça peut engendrer.
Ouais, les sacrifices aussi. C'est aussi le champion qu'on voit sur les réseaux sociaux. En fait, on ne voit pas les heures de taf autant en entraînement qu'en nutrition ou en mindset. C'est quelque chose qu'on oublie vraiment. En fait, quand on voit des perfs ou des perfs ou des contre-perfs, en fait, c'est une personne qui a donné sa vie à faire des choses, même si ce n'est pas une réussite totale. En fait, on oublie aussi de valoriser ça. Je trouve que c'est assez dommage dans les réseaux sociaux. On ne le voit pas, en fait. Les heures de sueur, les heures où tu te lèves à 5 heures du mat et où en fait tu es le seul con à être réveillé. Et c'est dommage que ça soit pas un peu plus mis en avant, quoi.
Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça, ils sont faits pour faire rêver. Hein. Donc automatiquement, on va être sûr, on va montrer que le côté positif, que beau, que le. Et c'est pour ça que quand tu vois des contre-perfs, tu lis les commentaires sous la vidéo, tu fais ah, cool, sympa pour celui qui vient de se
Ambiance.
Ouais, voilà, c'est ça. Et on oublie l'humain, on oublie clairement l'humain. Hein. C'est le principe des réseaux, c'est la dérive en tout cas des réseaux, c'est qu'on en oublie totalement l'humain qu'il y a derrière.
C'est ça.
Exactement. Donc voilà, faites attention à celles et ceux qui nous écoutent, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux, ne vous comparez pas aux autres, vous vous compareriez à des fausses images qui n'existent pas vraiment, d'accord? On vous montre que le bien, mais en fait, nous aussi, on a des coups de mou, nous aussi, on va taper une tablette de chocolat, même quand on est nutritionniste et que ça va pas, c'est ok et c'est normal, ça définit pas qui on est, mais ça définit un moment et ça arrive et c'est pas grave. Attention de ne pas vous comparer avec 0,01% de la population, d'accord? C'est ok si vous n'avez pas les abdos et tout. Et c'est rigolo parce qu'en CrossFit, on a une nana qui s'appelle Laura Hobart, qui a été championne du monde l'année dernière. Laura Hobart, c'est une des rares qui n'a pas ses six-packs et tout. C'est un monstre de performance. Mais elle a été hyper critiquée sur son physique. Et elle est hongroise et elle a un physique. Elle n'est pas ciselée, d'accord? C'est plutôt un bûche, d'accord? Elle n'est pas très ciselée. Et elle a été hyper critiquée sur son physique, vraiment. Genre, t'as pas un physique de crossfiteuse, genre, t'es limite un peu grassouille et tout. Elle a été hyper, hyper critiquée. Moi, bon, elle a quand même gagné, donc. Boum, mais ouais, chez à toi, à toi, à toi. Mais ça a dû être hyper difficile pour elle parce qu'effectivement, elle a un physique qui est pas celui des autres et en gros qui de fait a subi pas mal de critiques. Et moi, j'adore pour la prendre en exemple en disant, mais si tu cherches la performance, arrête de chercher tes abdos. Il y a une saison pour tout et c'est pas parce que tu as des abdos que tu es performant et c'est pas parce que tu en as pas que tu es pas performant. Et ça, c'est hyper important et ça serait mon message pour les gens qui aussi auraient des troubles alimentaires. C'est pas parce que tu as des abdos que tu es performant. Alors, essaye de prendre un peu de recul, même si c'est difficile. Et au lieu d'essayer de chercher d'optimiser absolument tout, essaye juste de faire les choses de manière constante et bienveillante avec toi-même. Et je pense que c'est le plus important, c'est de rester bienveillant avec soi-même et de pas tomber dans les trucs drastiques, s'il vous plaît. Tombez pas dans les trucs drastiques. Rien qui est drastique. Déjà, s'il y a un truc qui vous dit, vous mangez pas ça, n'y allez pas. D'accord? Ça a aucun intérêt. Pas de drastique chez nous.
Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu conseilles comme méthode, justement, parce que forcément, les gens vont chercher à voir le avant-après. Donc, si ce n'est pas la balance, est-ce que c'est le mettre? Est-ce que c'est les habits?
Il y a plein de méthodes. Je crois qu'il y a 13 indicateurs, mais j'en utilise pas 13 parce que ça fait beaucoup d'indicateurs. Tu vois, donc tout ce qui est sommeil, énergie, libido, tous des trucs qui sont quand même aussi cool, hein, dans la vie. Les
Passage.
PR, les performances. T'as dit quoi?
Au passage, ça peut être sympa.
La libido, ça peut être cool. La libido, ça peut être cool aussi. Donc ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on va regarder. Pour tout ce qui va être chiffré, ou en tout cas plus. pointu sur le sujet, on va plutôt prendre effectivement mensuration. On ne monte pas sur la balance encore. Enfin, moi, par exemple, je ne monte jamais sur la balance. Et par contre, on va aussi faire des photos visuelles, c'est-à-dire toujours dans les mêmes conditions, en maillot ou en sous-vêtements. D'accord? Donc le matin, à jeun, et pas besoin de le faire tous les jours. Une fois par semaine, ça va très bien. Et pourquoi? Parce qu'on vit avec son propre corps et en fait, on manque clairement de recul sur notre propre corps. D'accord? C'est-à-dire que. On va envoyer une photo et on va se dire, voilà, oh je suis dégueulasse. Et la personne qui va le recevoir, elle se dit, putain, elle est canon. Bah ouais, mais parce qu'on n'a pas de recul. Donc en fait, on va prendre des photos et on va pas forcément les regarder au fur et à mesure. Mais par contre, un jour, ou dans 3 mois, ou dans 4 mois, on va faire un avant et un après et on va se dire, waouh, en fait, il y a eu du changement. Pareil dans les fringues. Très bon truc. Ton pantalon, il va pas te mentir, il est pas là pour te faire de la peine ou pas. Je veux dire, si t'arrives pas à le serrer, c'est pas parce que lui, il s'est dit que t'étais une grosse vache et que, en gros, tu vois, et juste, tu vois, il y a des choses à faire. Ton pantalon, il va pas te mentir. Ton pantalon, il est pas là pour te faire de la peine et il est pas là non plus pour te satisfaire. C'est-à-dire que si demain, il est vraiment trop grand, c'est pas pour te faire plaisir, c'est parce que toi, en fait, t'as pris les choses en main et que t'as fait les choses correctement. Donc, les vêtements aussi, c'est un bon indicateur.
La vérité du pantalon, j'aime bien.
Ouais.
Ça va être un autre tweet, ça, les filles. Je veux dire, il y a des tweets dans tous les sens qui partent.
Le
Je
pantalon des
dirais.
triches fragiles. Ouais.
Ouais. Ouais, tes pantalons sont pas là pour te faire plaisir.
C'est vrai. Comme les lignes, ça dit la vérité.
C'est ça. Kaina, t'avais une question tout à l'heure.
Ouais, mais tu as répondu. En fait, je voulais savoir, enfin, tu as un petit peu répondu. Je voulais juste savoir comment toi t'amenais à faire comprendre aux personnes que t'accompagnais qu'il n'y avait pas de, voilà, de physique type, de standard type de physique pour performer sur tel, pas pour faire tel sport, ainsi de suite, en fait. Mais tu réponds un petit peu aussi dans ta façon de d'amener aussi le visuel avec les photos et ainsi de suite. Donc, le pantalon, l'histoire du pantalon. Non, mais enfin, surtout avec les photos, en fait, surtout les photos qui, je pense, sont peut-être plus parlantes pour les personnes que tu accompagnes au final.
Il y a aussi une histoire de ressenti. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a une histoire de saison et de ressenti. Et c'est pour ça qu'on parle de saison beaucoup chez HPP, parce qu'en gros, on s'aperçoit qu'il va y avoir des saisons dans lesquelles il va peut-être falloir que tu laisses ton corps recharger. Des saisons où tu vas devoir être plus performant. Il y a des saisons où il va falloir peut-être que tu fasses plus attention à ta nutrition pour descendre en poids de corps, peut-être, d'accord? Il y a des saisons. Et en fait, tu peux pas être toujours sur la même saison. Tu peux pas être toujours sur la saison de sèche, entre guillemets, pour les bodybuilders. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas être toujours sur la même saison. Tu as besoin de saisons. Et c'est ça de leur faire comprendre aussi que il y a plusieurs saisons et qu'on n'est pas dans une seule saison et que c'est OK. Et que c'est si tu veux de l'énergie et des performances, c'est peut-être que tu veux pas. Enfin, que tu, si c'est ça que tu veux en premier, bah c'est peut-être pas que tu veux les abdos et qu'on va y aller progressivement et on va voir si tu arrives à avoir tes abdos ciselés en ayant de la performance et des énergies. Tant mieux, parce que c'est ton corps, il est fait comme ça. Mais si c'est pas le cas, et ben c'est juste que ton corps, il n'est pas fait comme ça. Parce qu'il y a un moment donné où, en fait, c'est ce qu'on appelle le coût de l'opportunité, c'est l'opportunity cost en anglais, c'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre ça. Si tu es prêt à sacrifier ton énergie et ta performance pour tes abdos, ok? Mais c'est un choix. Si par contre, t'es pas prêt à sacrifier ton énergie et tes performances pour tes abdos, c'est que juste ton corps, il n'est pas fait comme ça, il n'est pas fait pour descendre très bas en matière grasse. C'est comme ça.
Ça, c'est
L'important, c'est
top.
de se sentir bien.
Ouais, parce qu'il y a plein de gens de. C'est toujours la faute de quelque chose d'autre, quoi. Ça, c'est super bien parce que ça. En fait, ça oblige les gens. C'est. En fait, c'est toi qui fais tes choix. Et il y a beaucoup aussi ce truc de. Ouais, mais bon, j'ai mes hormones, j'ai une maladie, j'ai ci, j'ai ça. Oui, on a tous un truc qui va pas forcément à la perfection, mais il y a un moment. En fait, quand tu manges pas, tu mincis. C'est aussi quelque chose de mathématique. Il faut arrêter de rejeter la faute sur plein d'excuses improbables, quoi. Ça, c'est bien parce que ça, les gens sont forcés de se dire, bon, bah, c'est moi qui gère, quoi.
Alors
Ça,
moi, je
c'est
vais aller plus loin. Si tu manges pas, tu mincis. Oui, jusqu'à une certaine limite. Pourquoi? Parce
oui.
qu'en fait, il y a un moment donné, c'est important parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent, ils vont pas avoir ce recul. En fait, effectivement, si tu manges pas, tu mincis. Claire, tu vas brûler plus de calories que tu n'en consommes. Claire, là, t'es précis. Sauf qu'on n'habite pas en Afrique et que de fait, il y a un moment donné où tu vas surconsommer. Et à ce moment-là, ton
Oui,
corps,
bien
il va
sûr.
stocker. Bah oui. Parce qu'en fait, il n'aura pas eu à manger pendant des semaines ou des jours. Donc la première chose qu'il va faire, c'est stocker. Et tu vas pas perdre de poids. Si on était en Afrique, parce que j'ai déjà eu le cas d'une personne qui m'a dit, ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi les petits Africains, ils sont pas gros? Mais parce qu'eux, ils ont jamais le cheat meal. Ils n'ont jamais la
Bah oui.
pizza, ils n'ont jamais le, tu vois, le recharge. Nous, en tant qu'Européens et en tant que personnes sur des civilisations où on manque de rien, il y a forcément un jour où on va avoir un repas plus riche, on va avoir un truc et tout. Bah, notre corps, il va être en mode guerre et il va stocker. Comme les gens qui faisaient des stocks de PQ pendant la guerre, pendant la guerre, pendant le Covid,
Pendant
pareil.
le
Pareil. C'est pareil, notre corps, il fait pareil. En gros, il stocke parce qu'en fait, il est, pour lui, il est en disette. Donc, du moment où il peut avoir un repas plus riche, il va stocker. Il va rien éliminer, il va tout stocker. Ouais, je crois qu'on va pouvoir finir là-dessus, les filles. On va finir
Ouais.
là-dessus. En tout cas, merci les filles de m'avoir, tu vois, de m'avoir rejoint sur ce podcast et sur cet épisode où on en a appris un max. L'objectif, c'est qu'on en ait plusieurs des comme ça. On va aborder plein de thématiques. On aura d'autres podcasts comme celui-là. N'hésitez pas, à celles et ceux qui nous écoutent, à nous le dire en commentaire. Mettez des likes, mettez des choses, mettez des trucs, mettez même ceux des topics que vous voulez qu'on discute toutes les trois, en sachant que on va avoir donc trois spécialités, la nutrition, la prépa mentale et la kiné. Comme ça, on va pouvoir déconstruire les mythes ou des concepts et donner nos feedbacks pour encore plus de performances. Merci les filles.
Avec plaisir.